protestantisme en Allemagne au XIXe siècle. Auparavant, nous dirons quelques mots rapidement sur les groupements hérétiques aux États-Unis, pour en avoir terminé avec les États-Unis. On a déjà vu les Mormons, l'aventure assez spéciale, pittoresque, si on veut, des Mormons. Il y a trois autres groupements qui naissent à cette période-là et qu'il est important de connaître parce qu'ils continuent encore de nos jours à faire parler d'eux. Le premier, ce sont les Adventistes. Les Adventistes sont le résultat de la prédication d'un certain William Muller. C'est date 1782, sa date de décès 1849, qui avait étudié les prophéties de Daniel. C'était une époque où on parlait assez peu du retour de Jésus. C'était une de ces vérités qui était pratiquement oubliée dans toutes les églises. Ça faisait partie du credo, n'est-ce pas? Et bon, on savait bien qu'un jour, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Bon, enfin, tout le monde était bien conscient que ce n'était pas demain la veille, comme dit l'autre. Hein. Et ça n'empêchait pas grand monde de dormir. À partir du XVIIe siècle, les différents réveils qui avaient marqué le protestantisme anglo-saxon en particulier avaient quelque peu contribué à secouer cette torpeur. Déjà, Zinzendorf, le réveil morave, avait remis en honneur l'attente du retour de Jésus, et les réveils qui avaient suivi aussi, le réveil wesleyen et les réveils autres. Et de ce fait, il y avait toujours un courant minoritaire dans le protestantisme qui s'attachait à l'étude des prophéties. Donc, c'est à cette période que ce William Muller s'est mis à étudier particulièrement les prophéties de Daniel et notamment les chiffres mystérieux qui sont évoqués par Daniel, la fameuse prophétie des 70 semaines qui se trouve dans le chapitre 9, les temps, un temps des temps et la moitié d'un temps, les chiffres 1290 jours, 1335 jours à la fin du chapitre 12. William Muller avait entrepris d'essayer d'interpréter ces chiffres mystérieux et d'arriver à des conclusions. Et c'est ainsi qu'il avait décrété, à la suite de cette étude, que Jésus allait revenir en 1844. Et de ce fait, un certain nombre de gens un peu crédules avaient accepté sa prédiction et s'étaient mis à attendre pendant cette fameuse année fatidique le retour de Jésus jusqu'au 31 décembre. Il y a même beaucoup de gens qui étaient rassemblés le 31 décembre 1844 parce qu'ils pensaient que c'est là que les choses se passeraient. Et la nouvelle année 1845 a commencé sans l'ombre d'un problème. Il ne restait plus qu'à souhaiter la bonne année. Et alors, bon, c'était un peu raté. Alors, William Muller a reconnu son erreur et puis, on en est resté là. Et c'est alors qu'un certain nombre de ses partisans n'ont pas voulu accepter d'avoir ainsi été déçus dans leur attente. Et un certain nombre d'entre eux ont réinterprété les prédictions de Muller et ont dit que finalement, William Muller ne s'était pas vraiment trompé. Enfin, ce n'était pas trompé entièrement, du moins. Et que, effectivement, la date de 1844 était une date importante, parce que dans cette fameuse année, Jésus était entré dans le sanctuaire céleste et il avait fait là la purification du sanctuaire céleste. Bien entendu, personne n'avait rien vu parce que c'était passé dans le ciel, mais qu'en fin de compte, on était entré dans une ère tout à fait nouvelle. Et qu'on était maintenant dans la période qui allait marquer les tout à fait derniers événements. Jésus allait revenir incessamment, bien sûr, on ne peut pas dire quand. Pour ça, ils étaient revenus à des vues un petit peu plus bibliques à ce niveau-là. Mais quand même, on était dans les temps. Et on était dans les temps où la bête se déchaînait en particulier. Et qu'est-ce que c'était la bête ? Eh bien, la bête, c'était non seulement l'Église catholique, qui était une interprétation classique en milieu protestant depuis Luther. Enfin, c'était pas vraiment la bête, c'était la prostituée. La prostituée était l'Église catholique, n'est-ce pas? Et Mais disaient les partisans de Müller, c'est pas seulement l'Église catholique qui est la grande prostituée, ce sont toutes les Églises. Et la meilleure preuve que toutes les Églises sont la prostituée, c'est qu'elles ont toutes la marque de la bête sur leur front. Et quelle est la marque de la bête? Eh bien, c'est le respect du dimanche, le premier jour. Les Églises ont fait une erreur fondamentale en changeant le jour du repos du septième au premier jour, et c'est ça le signe de la bête. Et ceux qui reçoivent le signe de la bête sont damnés pour l'éternité. Par conséquent, il faut sortir de la grande prostituée pour constituer l'épouse, et la marque de l'épouse, c'est que l'épouse va respecter à nouveau le Shabbat. D'ailleurs, on est entré dans le Shabbat depuis 1844. On est entré dans le septième millénaire, qui est le temps du millénium. Jésus va revenir incessamment. Et c'est pourquoi on doit maintenant à nouveau respecter le Shabbat pour pouvoir être prêt quand le Seigneur viendra à tout moment. C'est ainsi que est né un nouveau groupement qui a pris le nom qu'on a appelé plus exactement adventiste, du nom anglais Second Advent, deuxième venue de Jésus, n'est-ce pas? Adventiste, c'était ceux qui attendaient le Second Advent, deuxième avènement de Jésus. Et ils se distinguaient par le fait que précisément ils gardaient le Shabbat, ils avaient rétabli le Shabbat, et puis évidemment, presque dans la foulée, inconsciemment, ils se sont mis à respecter aussi un certain nombre de lois diététiques, l'abstention de porc, enfin les lois de l'Ancien Testament relatives à la nourriture pour les Juifs. Ceci dans une vision d'ailleurs plutôt d'hygiène que de raison sotériologique ou spirituelle, véritablement, n'est-ce pas? Et alors, ils ont élaboré aussi toute une eschatologie qui était assez différente de celle qui était en général en vigueur dans les milieux protestants anglo-saxons. Et notamment, il y avait cette idée que les morts sont dans une totale inconscience. Ils se basaient sur des textes où il est question de dormir, n'est-ce pas? Le sommeil de la mort. Nous ne voulons pas, par exemple, disait Paul, que vous affligiez au sujet de ceux qui dorment. Entendu, c'est une figure de style. La comparaison entre la mort et un sommeil n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Alors, bien, les apôtres ont repris cette image. Ça ne veut pas dire que la mort est un sommeil stricto sensu. Mais c'est ainsi que l'ont interprété les adventistes. Par conséquent, il y a cette idée de l'inconscience des morts jusqu'à aujourd'hui. Et puis aussi, les adventistes ne pouvaient pas accepter, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, la notion de l'enfer. Ils ont donc réinterprété ces textes où il est question des souffrances éternelles de ceux qui sont damnés, n'est-ce pas, en disant que la mort, que l'enfer, plus exactement la seconde mort, si vous voulez, c'est l'anéantissement. Ceux qui ne seront pas sauvés seront anéantis. Et c'est une doctrine qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme étant faisant force de loi. Et c'est alors que ce mouvement, qui commençait passablement à s'essouffler à cause des échecs de son fondateur, a retrouvé un nouveau souffle sous l'égide d'une prophétesse, entre guillemets, prophétesse bien entendu, c'est elle qui s'est parée de ce titre, qui se nommait Ellen White, c'est date 1727-1915, qui a prétendu avoir reçu des révélations complémentaires de la Bible, en quelque sorte, pour les temps de la fin. Cette Ellen White s'est mise à diriger le mouvement jusqu'à sa mort, début du siècle. Ces prophéties, entre guillemets, ont été soigneusement recueillies, mises par écrit, diffusées. Et jusqu'à peu, pour le moins, n'est-ce pas, les prophéties d'Ellen White faisaient autorité pratiquement au même titre que la Bible, n'est-ce pas? De ce fait, il était extrêmement difficile de reconnaître dans les adventistes des chrétiens au sens profond du terme. On peut dire que, notamment, la place prise par Ellen White, ses prophéties, étaient une différence, on pourrait dire, séparatrice, qui empêchait une communion avec les adventistes et qui faisait qu'on était obligé de les considérer comme secte. Depuis quelque temps, il y a une évolution chez les adventistes. Déjà depuis bon nombre d'années, un certain nombre d'entre eux avaient pris du champ par rapport aux prophéties d'Ellen White. Par rapport au caractère absolu du Shabbat, et était revenu à des vues beaucoup plus évangéliques en ce qui concerne le salut par la foi, par le sacrifice de Jésus, chose qui était très, très relativisée, disons, dans la doctrine adventiste telle qu'elle avait été élaborée par Ellen White, et qui faisait que finalement on revenait peu ou prou à un salut par les œuvres. Il semblerait que de plus en plus d'adventistes se rallient maintenant à une vision beaucoup plus évangélique. Et ces derniers temps, en France du moins, les adventistes ont demandé leur rattachement à la Fédération protestante de France. Il y a actuellement un dialogue qui s'est engagé avec eux. Et une des conditions de cette acceptation dans la Fédération protestante de France était précisément qu'ils se démarquent des écrits d'Ellen White, ce qu'ils ont fait. Donc là, il y a une évolution d'un mouvement qui a véritablement commencé comme une secte, au sens plein du terme, qui d'ailleurs, nous allons voir dans un instant, à l'origine d'autres sectes qui sont sorties de lui, et qui aujourd'hui tente à devenir une église avec des particularismes qu'on peut discuter, n'est-ce pas? Mais disons qu'il y a quand même une base évangélique dans laquelle on peut se reconnaître, n'est-ce pas? Des adventistes sont sortis alors un mouvement qui, lui, reste encore extrêmement sectaire jusqu'à nos jours, c'est les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, ou plus exactement, d'abord, dans un premier temps, les étudiants de la Bible. Les étudiants de la Bible sont nés aussi d'un, je sais pas s'il faut dire un prophète, enfin d'un fondateur qui se nomme Russell. C'est date 1852-1916, qui, lui, a repris les travaux de William Muller sur les prophéties de Daniel. C'est toujours quelque chose, quand on veut absolument faire coïncider ces prophéties de Daniel avec des événements, c'est toujours extrêmement délicat. Et Russell, donc, est arrivé à la conclusion que, effectivement, Muller avait fait une petite erreur et qu'en fait, Jésus ne devait pas revenir en 1844, mais en 1914. 1914 serait la grande année au cours de laquelle Jésus reviendrait. Maintenant, il était vrai que quelque chose s'était passé en 1844, parce que finalement, pour Russell, Jésus revient graduellement. C'est assez facile. Et par contre, il annonçait d'une manière très claire qu'à partir de 1914, nous entrerions dans le millénium. Je crois que c'était assez difficile de se tromper plus qu'il n'a fait. Parce qu'en 1914, il s'est bien passé quelque chose. Mais quant à entrer dans un millénium, c'était tout à fait autre chose. Hein? Bon, c'est inutile d'aller plus loin. Et on voit tout de suite qui était finalement Russell. Alors, en attendant cette date importante de 1914, où les nations devaient enterrer enfin, devaient forger de leurs épées des hoyaux, de leurs lances des serpes, n'est-ce pas? Il avait annoncé ça. Les morts allaient ressusciter. C'était cette année-là que toutes ces choses merveilleuses allaient se produire. Il s'est trompé parce que cette année-là, les nations n'ont pas forgé de leurs lances des serpes, ni de leurs épées des socs de charrue, mais ils ont fait le contraire. Des socs de charrue, ils ont fabriqué des lances et de leur charrue, ils ont fait des canons, etc. Bon. Alors là, il y a une toute petite erreur. Alors, en fin de compte, les étudiants de la Bible étaient des gens qui reprenaient les doctrines des adventistes, si ce n'est le Shabbat. Ils n'avaient pas gardé le Shabbat, ni les lois alimentaires, mais par contre, ils avaient la même vision sur l'enfer, sur l'anéantissement des damnés. Et alors, chose aussi qui est beaucoup plus redoutable encore, c'est que Russell à nier aussi la Trinité. Il trouvait que c'était un mot qui n'était pas biblique, ce qui est vrai, mais la doctrine l'est. Et il niait la divinité de Jésus. Pour lui, Jésus était la première des créatures, le plus grand des anges, mais il n'était pas fils de Dieu. En fin de compte, si, il était fils de Dieu dans ce sens-là, qu'il était créé, mais qu'il n'était pas d'essence divine, de nature divine. Et de ce fait, il n'était pas non plus éternellement préexistant. Il y a un moment où il a commencé à exister quand Dieu l'a créé. En fin de compte, la doctrine des étudiants de la Bible était une nouvelle forme d'arianisme, on peut dire. C'était une résurgence du vieil arianisme qui avait été combattu par le Concile de Nicée. C'est évidemment en 1914, quand le 31 décembre 1914, les 12 coups de minuit ont sonné. Il a bien fallu se rendre compte et à l'évidence que Russell s'était légèrement trompé. Il n'a pas survécu longtemps. Il est mort 2 ans après, sans avoir vu la fin de la Grande Guerre. Et logiquement, le mouvement aurait dû s'arrêter là. Ce mouvement, qui était un mouvement plus ou moins informel d'ailleurs, les gens quittaient les églises parce que les églises étaient aussi la grande prostituée. On prenait un petit peu l'idée des adventistes. On se rassemblait dans des maisons parce que se rassembler dans des lieux de culte, c'était quelque chose d'abominable. C'était une marque de la prostituée que d'avoir des lieux de culte spéciaux. On devait se rassembler dans des maisons sous la direction d'anciens pour étudier la Bible, tout le nombre d'étudiants de la Bible. Quand on était question d'étudier la Bible, ça veut dire essentiellement étudier les prophéties, et plus particulièrement les prophéties de Daniel et les prophéties de l'Apocalypse. Finalement, la Bible, des étudiants de la Bible se réduisait au livre de Daniel et au livre de l'Apocalypse, avec on piochait un peu dans les prophéties de Jésus sur son retour, des choses comme ça, mais c'était essentiellement ça. Donc 1914, échec du mouvement et logiquement dispersion de ceux qui s'y sont qui ont cru. Quand surgit à nouveau, n'est-ce pas, un nouveau prophète qui est un juge qui se nomme Rutherford. Et ce Rutherford va réinterpréter la prophétie de Russell en disant: oui, 1914 a bien été une date importante. Remarquez, il n'avait pas tout à fait tort. Et là, nous sommes entrés dans l'ère des grandes tribulations. Ça pouvait paraître en effet assez, assez logique. C'était un peu dommage qu'il ait fallu attendre que la guerre soit finie pour pouvoir dire que ça a été une grande tribulation. Il aurait mieux valu l'annoncer avant, ça aurait été un petit peu plus crédible. Et alors maintenant, Jésus allait revenir en 1935. On avait réinterprété les choses. C'était en 1935, les prophéties de Daniel revues, corrigées, augmentées par Rutherford, permettaient maintenant de dire que c'était à coup sûr en 1935 que Jésus allait revenir. Alors, il y avait des grandes affiches, une campagne d'affichage monstre qui a été faite aux États-Unis et en Angleterre, avec ce slogan: des milliers de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. On attendait pour 1935 l'enlèvement d'Église et la résurrection des morts. Et c'est alors qu'il y a eu une scission entre les russellistes et puis les rutherfordiens, si on peut parler ainsi. Les russellistes minoritaires ont gardé le nom d'étudiants de la Bible jusqu'à ce jour, et les autres ont pris le nom de témoins de Jéhovah. Alors le système s'est affiné, élaboré avec le temps. Bon, les témoins de Jéhovah étaient la seule véritable église, tous les autres étaient la prostituée, et la marque de la prostitution n'était plus le Shabbat, mais l'acceptation de la Trinité. Au moment où vous acceptez la Trinité, vous êtes donc, vous avez la marque de la bête sur vous, quoi. Et une autre marque aussi de la prostitution, c'était que on n'appelait pas Dieu par son nom. Le nom de Dieu, c'était Jéhovah, n'est-ce pas? C'était une erreur d'ailleurs de lecture du tétragramme hébreu, mais ça, Rutherford n'était pas suffisamment hébraïsant pour le savoir. Et si on ne s'adressait pas à Dieu sous ce terme de Jéhovah, c'était un sacrilège abominable. Il fallait donc invoquer Dieu de cette manière-là. Ceux qui ne le faisaient pas étaient donc damnés pour l'éternité, c'est-à-dire anéantis, puisque l'enfer n'existait pas. Il fallait donc créer, alors là, le royaume de Dieu. Il fallait préparer la venue du royaume de Dieu. Et pour cela, il fallait absolument rompre avec le monde. Rompre totalement, ça veut dire ne plus avoir de contact avec les tout ce qui appartient au monde de l'impiété. Les témoins de Jéhovah sont abjecteurs de conscience, n'est-ce pas? Refusent de prêter serment, refusent d'avoir des fonctions officielles, refusent de saluer le drapeau, refusent tout ce qui peut ressembler de loin ou de près au nationalisme, etc., pour vivre, constituer le petit troupeau, n'est-ce pas, le petit troupeau des sauvés, n'est-ce pas, qui aura ainsi part au royaume à venir, c'est-à-dire au royaume millénaire, qui ressemble énormément d'ailleurs au régime actuel, si ce n'est que la guerre et toutes ces choses-là auront disparu. Et alors, il y a des descriptions très réalistes de ce que sera le millénium, etc. Maintenant, autre point que les témoins de Jéhovah ont introduit également, c'est l'idée qu'il y a une séparation entre deux catégories d'élus. Si vous rejoignez les témoins de Jéhovah, ça ne veut pas dire obligatoirement que vous allez être sauvés. Enfin, alors, entendu, dans la mesure où on ne croit pas que Jésus est fils de Dieu, ou du moins qu'il est d'essence divine, donc on ne croit pas non plus au caractère expiatoire des souffrances de Jésus, de sa mort expiatoire, c'est pas par ça qu'on est sauvé, mais c'est au contraire en rejoignant le petit nombre des élus. Mais là, encore une fois, bon, c'est pas évident. Parce qu'on lit dans l'Apocalypse, qui est encore une fois le livre de référence, qu'il y avait d'une part 144 000 membres de toutes les tribus d'Israël, et puis après il y a une grande foule. Hein, une grande foule derrière, après je vais une grande foule de toute nation, de toute langue, de toute, oui, de toute nation, de toute culture, bien. Alors, il y a, d'après la doctrine témoin de Jéhovah, 144 000 élus. Qui le sont par, en quelque sorte, un décret souverain de Dieu. Bon, on peut jamais trop savoir si on fait partie des 144 000 ou non. Finalement, 144 000, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Si on prend le monde entier, ça fait un grand nombre parce que 144 000. Mais enfin, bon, si on prend le monde entier, surtout depuis les origines jusqu'à nos jours, 144 000, ça fait pas énorme. Ça. Et ces 144 000-là, eh bien, sont sorte les élus d'un rang supérieur aux autres. Et puis ensuite, il y a la grande foule qui, alors, eux, vont passer par la tribulation, les 144 000 y échappant. 144 000 seront donc ceux qui seront enlevés quand Jésus reviendra, parce qu'on croit quand même au retour de Jésus. Et puis, la grande foule, c'est-à-dire finalement le témoin moyen, quoi, le témoin de Jéhovah moyen, qui, bon, on n'a jamais était trop trop transcendant, bah, devra malheureusement passer par la tribulation. Mais s'il tient jusqu'au bout, bah, il sera quand même sauvé. Il sera quand même sauvé avec cette grande foule des élus qu'on voit dans le texte d'Apocalypse. Alors évidemment, on insiste énormément sur la bataille d'Armageddon, sur toutes ces choses-là. Bon, alors là, nous arrêtons à notre sujet, c'est le 19e siècle, donc ils ne se trompent pas sur ce qu'en sont devenus les témoins après 1935. 1935, évidemment, a été aussi une nouvelle année de désillusion. Évidemment, à chaque date annoncée, les témoins de Jéhovah perdaient du monde, c'est évident. C'est pas quand, en 1914, Jésus n'est pas revenu, bon, eh bien, beaucoup ont quitté les étudiants de la Bible. En 1935, quand Jésus n'est pas revenu, beaucoup aussi ont quitté les témoins de Jéhovah. D'autres dates ont été refixées. Chaque fois qu'il y avait une date qui échouait, on refixait une nouvelle date. Refixait une nouvelle date, et ça repartait. Ça repartait plus ou moins, en tout cas avec des nouveaux adeptes. Finalement, c'était un peu le principe des vases communicants. Ça, il y avait un courant comme ça. On entrait, puis on ressortait après. Mais enfin, il y avait toujours un petit nombre, même un nombre relativement important, parce qu'un des principes aussi des témoins de Jéhovah, c'est qu'on fait son salut en prêchant l'Évangile. Tout témoin, d'où le nom de témoin, tu vois, doit être un prédicateur de l'Évangile. Prêcher l'Évangile, ça veut dire essentiellement faire du porte-à-porte. Et le témoin de Jéhovah zélé est celui qui prêche l'Évangile. Il doit consacrer un minimum d'heures à la prédication de l'Évangile pendant sa semaine, s'il veut pouvoir être sauvé. Alors, ils vont deux par deux, comme dit l'Évangile. Quand Jésus a envoyé ses disciples, c'était deux par deux. Et plus on reçoit de rébuffades, mieux ça vaut. Hein, Les portes claquées au nez, c'est toujours autant ça qui vous sera crédité ensuite au dernier jour pour être sauvé. Alors quand vous mettez un témoin de Jéhovah à la porte avec perte et fracas, vous travaillez à son salut. Vous faites quelque chose de bien finalement. Alors c'est pour ça que bon, il vaut mieux être gentil avec eux quoi, plutôt que de Alors ça c'est une chose. Et alors en même temps, c'est une entreprise très très structurée, dirigée depuis les États-Unis, qui est organisée autour de ce qu'on appelle les salles du royaume. L'Église n'est pas l'Église, ce sont les salles du royaume, parce que c'est déjà les témoins sont déjà les porte-paroles du royaume de Dieu qui est déjà là, qui va apparaître d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Et qui permettra de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Les salles du royaume sont dirigées par des anciens, qui sont des gens qui ont fait leurs preuves. Une discipline très stricte existe. Sur le plan de la moralité, il n'y a strictement rien à dire. Les témoins de Jéhovah ont une éthique extrêmement biblique, extrêmement respectable. Et ceux qui ne se conforment pas à cette éthique, qui dérogent pour une raison ou pour une autre, sont exclus sans pitié. Et la plupart des réunions des témoins de Jéhovah commencent par la liste des personnes qui ont été exclues le mois précédent. C'est pas pour que tout le monde sache bien qu'à partir de ce moment-là, il ne faut plus fréquenter ces gens-là. Les témoins de Jéhovah ont cessé de fixer des dates depuis 1975. 1975 est la dernière date qu'ils ont donnée au retour de Jésus. Ils ont fini par se rendre compte que donner des dates trop précises finissait par leur nuire. Alors maintenant, ils laissent la question ouverte, ce qui est déjà beaucoup plus prudent et beaucoup plus biblique en même temps. Ils restent très fermés, très sectaires, n'est-ce pas? Tous ceux qui ne sont pas eux sont voués à l'enfer, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la destruction, à l'anéantissement, puisque l'enfer n'existe pas en tant que lieu de souffrance. Et eux seuls peuvent avoir part, espérer avoir part au salut après Armageddon, tous les autres étant condamnés donc à disparaître dans cette grande catastrophe imminente qu'est la bataille d'Armageddon. Alors, de ce fait, les témoins de Jéhovah n'ont pas encore fait leur aggiornamento, comme l'ont fait les adventistes, et il reste le type même de la secte. La secte, d'abord, sur le plan doctrinal, qui ne peut pas être reconnue comme chrétienne, puisqu'elle ne reconnaît pas la divinité de Jésus. Et puis, deuxièmement, dans son attitude, dans son comportement, même s'il y a des choses respectables sur, encore une fois, la vie personnelle de ces gens-là, qui est tout à fait bonne en général. C'est pas, on ne peut pas considérer que ce soit des frères, pas considérer que ce soit des chrétiens. Autre mouvement hérétique, disons, de cette période-là, qui naît aux États-Unis, c'est la science chrétienne. Science chrétienne, dont il est toujours abondamment question aussi aujourd'hui, témoins de Jéhovah et science chrétienne étant en quelque sorte les types mêmes de la secte telle que cela représente aujourd'hui dans la fameuse chasse aux sectes qui marque la fin de ce siècle. La science chrétienne a été créée en 1879 par une certaine Madame Baker. C'est souvent des dames qui sont dans ces choses-là. C'est date 1821-1910, qui s'était intéressée à une philosophie qu'on appelle la théosophie, et qui était arrivée à la conclusion que le mal n'existait pas. Et que finalement, quand on avait mal, c'était une impression, mais qu'on n'avait pas vraiment mal. La souffrance n'existait pas véritablement, c'était une impression, pas, c'était, elle existait dans notre psychisme. Et que par conséquent, on pouvait vaincre la souffrance, on pouvait vaincre la maladie, n'allez pas jusqu'à dire la mort quand même, par des techniques mentales, des techniques de. Il suffisait de savoir d'abord que la souffrance, le mal, ça n'existait pas. C'est une illusion. C'était la première chose à prendre en compte. Et puis, deuxièmement, il y avait toute une science, d'où le nom de science chrétienne, qui permettait justement de vaincre la douleur, n'est-ce pas? De vaincre la douleur et la souffrance. C'est ainsi qu'elle crée la première église scientiste à Boston, donc en 1879. C'est l'idée aussi, c'est que finalement nous sommes ici dans un dualisme de type platonicien poussé à son extrême, à savoir que la seule réalité qui existe, c'est l'esprit. La matière n'est qu'illusion. La matière n'existe pas. On prend évidemment, on est tout à fait aux antipodes du matérialisme. Et par conséquent, il faut vaincre l'illusion de la matière par l'esprit. Et comme, finalement, reprenant le bon vieux Platon, n'est-ce pas, le mal vient de la matière, si on arrive à se défaire de l'illusion de l'existence de la matière, on se défait aussi du mal, de l'impression du mal. Par conséquent, le péché n'existe pas, donc l'enfer n'existe pas, donc l'incarnation de Jésus n'existe pas, la rédemption par le sang de Jésus n'existe pas, et quand on est malade, eh bien, il faut chercher la guérison en niant la maladie. C'est une espèce d'autosuggestion. Et alors, elle écrit un bouquin qui a un certain succès, il s'appelle « Science et santé selon les Écritures », enfin, selon son interprétation des Écritures, bien entendu. Et bon, ce mouvement a continué à se développer, comme hélas, on le sait aujourd'hui. On a mis au point des techniques maintenant, surtout dans le domaine de la guérison, beaucoup plus sophistiquées, avec des études très précises, très chères d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et il faut reconnaître que dans la science chrétienne, l'église de Scientologie, comme on l'appelle aussi, il y a une part d'escroquerie à l'argent très importante qui a fait que, d'ailleurs, cette organisation est tombée sous le coup des lois françaises à plusieurs reprises, justement, pour avoir pratiqué ce genre d'escroquerie et d'abus de confiance à des gens, justement, qui, dans la maladie, évidemment, cherchaient tous les moyens pour pouvoir échapper à leur triste sort. Donc voilà, en gros, si vous voulez, ce que on peut dire de ces mouvements hérétiques qui sont nés aux États-Unis au siècle dernier. Alors maintenant, abordons l'étude que nous étions proposés d'entamer ce soir, le protestantisme en Allemagne au XIXe siècle. En Allemagne, en Prusse très exactement, arrive sur le trône le roi Frédéric Guillaume III. C'est l'époque où la Prusse, vous le savez, a servi de refuge aux Huguenots pour chasser, chassés par l'édit de Nantes, par la révocation d'édit de Nantes, très exactement, de telle sorte que le protestantisme prussien est mixte. Il est à la fois luthérien, pour ce qui est des autochtones, et il est réformé, pour ce qui est des descendants des Huguenots qui sont venus s'installer en Prusse, et qui ont fait la Prusse, pratiquement. Et c'est la raison pour laquelle Frédéric Guillaume, donc c'est date 1797-1840, cherche à rassembler dans une seule organisation, dans une seule église, luthériens et réformés dans son royaume. Et il va donc rassembler les ecclésiastiques des deux tendances pour constater que la fusion n'est pas si simple. Car bien que luthériens et réformés ont des doctrines proches, il y a aussi des doctrines différentes, et notamment justement la question de la communion. Pour les réformés, vous le savez, nous avons essentiellement, on insiste sur le mémorial, tandis que les luthériens parlent de consubstantiation, c'est-à-dire que lorsque le prêtre, c'est une question de prêtre pour les luthériens, prononce les paroles de consécration, « ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain reste le bien du pain, et en cela on est d'accord avec les réformés, mais mystérieusement, la substance du corps de Jésus s'ajoute à la substance du pain. Alors c'est des querelles byzantines, c'est le cas de le dire, parce que là, on est dans des notions qui sont celles de la philosophie grecque des premiers siècles de l'Église en particulier, la notion de substance, qu'est-ce que c'est qu'une substance, n'est-ce pas ? Mais bon, ce sont des querelles qui aujourd'hui ont tendance à être un peu dépassées, même si elles demeurent encore chez certains luthériens très convaincus. Mais à cette période-là, on était à fond, n'est-ce pas, dans ces catégories-là. Et finalement, l'accord se révèle être extrêmement difficile. Finalement, les deux doctrines vont pouvoir avoir droit de cité. Et c'est ainsi que voit le jour une Église unie, une Église allemande, une Église prussienne très exactement, unie, qui demeure d'ailleurs jusqu'à nos jours. L'Église évangélique d'Allemagne est une Église qui résulte de la fusion des luthériens et des réformés et qui s'appelle Église évangélique. Ça, c'est une chose à savoir parce que quand des Allemands vous parlent d'Église évangélique, on aurait tendance à dire « Ah, ben, l'Église évangélique, c'est nous ». Pas du tout. Pardon ? Oui, je ne sais pas comment ça se dit. Comment ça se dit en allemand ? Oui, l'Église, c'est ça. Oui, c'est, donc, c'est l'Église officielle. Hein, c'est l'Église officielle qui est luthéro-réformée, en fin de compte. Ça. Et bon, cette fusion n'est pas du gré de tous. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de gens vont se séparer de l'Église officielle, l'Église évangélique officielle, qui naît ainsi, et notamment des gens qui auront des tendances piétistes. L'Église luthérienne, en particulier, est restée très marquée par le piétisme, et en même temps, les réveils moraves, le réveil morave essentiellement, et puis les réveils qui en sont issus, ont amené l'implantation en Allemagne, outre de toute l'aile piétiste de l'Église luthérienne, d'églises libres, ce qu'on appelle les églises libres. Ça veut dire justement d'églises qui ne dépendent pas de l'État, qui ne sont pas subventionnées par l'État et qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui ont droit de citer sans être officiellement reconnues. Alors, parmi ces églises, on trouve les méthodistes, des baptistes, l'armée du salut qui s'est implantée aussi après le réveil salutiste en Angleterre, et puis les églises de frères qui sont issues des différents réveils de Plymouth. Le grand centre, on peut dire, des églises libres de langue allemande va s'implanter à Bâle, en Suisse, et c'est ce qu'on appelle le mouvement Krishona. C'est comme ça que ça se prononce ? Krishona ? Enfin, je pense, en tout cas, et qui est un mouvement, on peut dire un mouvement de réveil, qui se manifeste à cette époque-là dans toutes les différentes églises libres d'Allemagne et de langue allemande, d'ailleurs en Suisse alémanique également, et dans l'aile piétiste de l'Église luthérienne. Et là, Krishona va devenir le centre de toutes ces églises. Ils vont avoir une école biblique, ils vont avoir des conventions, des rassemblements qui les amènent à se retrouver là et qui, au bout d'un temps, les amènent à rompre avec les églises officielles, avec l'Église nationale en particulier. Parmi les promoteurs de ce mouvement, il y a un certain Scheicher Macker, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, S-C-H-E-I-R-E-R-M-A-C-K-E-R. Alors, S-C-H-E-I-R-E-R-M-A-C-K-E-R. Schreier, Macker, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, enfin, ces dates, 1768-1834, qui a été profondément marqué par le réveil morave, et ce qui ne l'empêche pas d'avoir des sympathies rationalistes. Ça, c'est quand même un des paradoxes qui va marquer justement le mouvement piétiste allemand. C'est qu'à partir du 19e siècle, nous allons voir ça dans un instant, l'Allemagne va être très marquée par le rationalisme. Et le piétisme va être aussi atteint par le virus du rationalisme. Ce qui, à la limite, ne doit pas nous étonner. Parce que, précisément, le propre du piétisme, c'est qu'il avait insisté sur la vie de piété et peu sur la doctrine. Et déjà, du vivant de Zinzendorf, il y avait un certain flottement sur la doctrine parfois. Et ça va laisser la porte ouverte justement à l'invasion en masse du rationalisme. Ce fameux Schreicher-Macher là deviendra professeur à Berlin et il professe, n'est-ce pas, notamment que les idées théologiques sont indépendantes de la vie de piété. Qu'on peut avoir des idées très avancées dans le domaine théologique, très rationaliste et pourtant avoir une vie de piété très profonde. Alors, c'était un grand écart auquel les gens comme ce fameux... semble-t-il, se sont livrés avec une certaine virtuosité. C'est vrai qu'ils avaient une vie de piété profonde, n'est-ce pas ? Ils avaient deux discours, un discours quand ils étaient en chair, quand ils prêchaient, ils étaient très évangéliques, ils étaient très évangéliques dans leurs prières, etc. Puis, quand ils enseignaient ex cathedra à la faculté, ils étaient très rationalistes. C'est difficile à concevoir. Enfin bon, c'était comme ça. Par exemple, il enseignait aussi que Jésus n'était pas véritablement fils de Dieu. Il se distinguait simplement des hommes par l'intensité de sa connaissance religieuse. C'était tout ce qui faisait de Jésus qu'il était un être différent des autres. Et que finalement, le christianisme se résume à un sentiment de dépendance face à l'infini. Alors, comment ensuite il a concilié ça avec une vie de piété ? Ça, moi, je avoue que ça me laisse un peu rêveur. Enfin, apparemment, d'après ce qu'on a pu lire de lui, il arrivait à concilier ces deux choses, a priori, vraiment difficilement inconciliables. Bon, il faut dire qu'en Allemagne, à cette époque-là, le romantisme battait son plein. Et le rationalisme théologique qui va marquer l'Allemagne était une des conséquences aussi du romantisme. On peut dire que le romantisme a déformé le piétisme en Allemagne. Ça a été une véritable catastrophe. Et que ce piétisme abâtardi a une grande influence dans les autres pays, de telle sorte que d'Allemagne au XIXe siècle est sorti un poison qui a infecté, on peut dire, quasiment toutes les dénominations protestantes du monde entier et qui aboutit pour une grande part à la crise actuelle. Ce qui faisait dire, en s'entendant à Johnny Nord, dans un raccourci un peu caricatural, mais vrai, que les théologiens étaient à l'origine justement de la catastrophe actuelle. Bon, il aurait fallu nuancer un peu et dire que c'était essentiellement les théologiens allemands marqués précisément par ce romantisme et par le piétisme. Ils ont essayé justement de raccrocher le romantisme, qui était un mouvement laïque au demeurant, n'est-ce pas, avec le piétisme, dans lequel ils retrouvaient un petit peu justement certaines des tendances romantiques qui faisaient partie aussi un peu de l'âme allemande de cette période-là. Alors, parmi ceux qui ont aussi eu une influence absolument destructrice, il faut citer le philosophe Hegel. Hegel, 1770-1831, qui était panthéiste, ça veut dire qu'il croyait que Dieu était en tout et tout était Dieu. Tout était une partie de Dieu. Hein, c'est pas nouveau, déjà, des philosophes grecs avaient émis cette doctrine depuis bien longtemps. C'est la base aussi de toutes les philosophies et religions de l'Inde et de l'Orient, de l'Extrême-Orient, n'est-ce pas ? Le bouddhisme repose sur cette théorie-là. Elle revient en force aujourd'hui, notamment avec l'écologie et toutes ces choses-là. Donc, le panthéisme, nous sommes tous une partie de Dieu, nous sommes tous une étincelle de Dieu, et finalement, rien ne se perd, rien ne se crée. Quand le monde est éternel, et quand nous mourons, nous retournons à Dieu, etc. Et la mouche, le microbe, la pierre sont aussi bien une partie de Dieu, autant que nous, n'est-ce pas, qui prend des formes différentes, mais finalement, tout est Dieu. Et la thèse d'Hegel, n'est-ce pas, qui était aussi influencée par une idée qui commençait à se faire jour en Allemagne à cette période-là, qui était aussi d'ailleurs une idée romantique, c'était la notion de progrès. Le 19e siècle est le siècle où on commence à prendre conscience de l'existence d'un progrès technique. Le progrès technique devient sensible. Pendant des siècles, le progrès technique n'avait pas bouleversé d'une manière fondamentale la vie des gens. Les inventions nouvelles amélioraient un petit peu la vie ordinaire, mais changeaient rien de fondamental, si bien qu'on n'avait pas l'impression d'une progression linéaire, si vous voulez. On avait l'impression d'un monde stable, d'un monde répétitif. Un petit peu comme on voit dans l'Ecclésiaste, une génération va, s'en va, une autre vient et le monde reste le même. À partir du 19e siècle, le progrès technique devient sensible. Et plus on s'avance dans le siècle, et plus ce progrès devient important, de telle sorte que là, on commence à avoir l'Européen moyen ou l'Américain moyen commence à avoir l'impression que le monde est en train de changer. C'est une impression finalement très superficielle parce que rien ne change véritablement en profondeur. Ce qui change, c'est le monde, c'est la manière de vivre. C'est précisément le progrès technique. Et de la prise de conscience de ce progrès technique va naître une philosophie, selon laquelle le progrès technique n'est en fin de compte rien d'autre que l'aboutissement du progrès de l'humanité en général. Et finalement, du monde, de la création elle-même. À partir du moment où on dit tout est Dieu, alors on nie qu'il y ait un créateur, on pose l'éternité de la matière, et cette matière qui est Dieu, en fin de compte, qui possède donc un esprit, part des formes les plus simples pour s'organiser d'une manière de plus en plus complexe. Et c'est ainsi que naît l'idée d'un progrès. Bon, on trouve aussi cette idée un peu dans la Bible, du moins. Nous dit que l'histoire va vers un but, est conduite par Dieu. Non pas que la Bible nous parle d'un progrès, mais nous parle d'un but, d'une notion qui sera reprise par un disciple d'Hegel, sera Marx, Karl Marx. Ça, il y a un sens à l'histoire. Ça, c'est la grande découverte des philosophes allemands du 19e, particulier l'école d'Hegel. Et s'il y a un sens à l'histoire, c'est parce que sur une très longue durée, qui se confond quasiment avec l'éternité, la matière s'organise encore une fois du plus simple vers le plus complexe. Et nous arrivons aujourd'hui, c'est-à-dire au 19e, à un stade où cette évolution, ce progrès, a atteint une telle complexité qu'on peut envisager maintenant un saut dans un nouvel éon, comme disaient les Grecs. Et c'est là qu'intervient justement la philosophie hegélienne. Comment se fait cette évolution, dit Hegel? Remarquez que nous sommes aussi à l'époque où Darwin, partant des mêmes prémices, écrit l'Origine des espèces et pose l'idée, n'est-ce pas, de l'évolution qui a fait fortune jusqu'à aujourd'hui, selon laquelle les espèces animales, ou les espèces vivantes tout simplement, évoluent de la particule monocellulaire pour devenir ensuite, pour créer ensuite des êtres multicellulaires et puis ensuite de plus en plus complexes jusqu'à arriver à l'homme, n'est-ce pas? Hegel dit, mais comment se fait cette évolution? Eh bien, justement, non pas d'une manière linéaire, dit Hegel, mais par des crises, par des sauts brutaux. Et finalement, on pourrait dire par des révolutions. Alors là aussi, il faut voir à quelle époque on dit cela, 19e, où on est marqué par la Révolution française et par ensuite les guerres napoléoniennes qui ont porté les idées révolutionnaires dans toute l'Europe. Et que d'où naît une révolution finalement? Eh bien, d'une opposition, d'une action qui rencontre une opposition et qui crée un conflit. Et de ce conflit naît une situation nouvelle. Et un état nouveau, un temps nouveau, un éon nouveau. Et puis, jusqu'à ce qu'à nouveau, cette nouvelle organisation se heurte à des nouveaux obstacles, à des nouvelles oppositions, et qu'on entre à nouveau dans un conflit. Et alors, la résolution du conflit, la solution du conflit provoque un nouvel état, et ainsi de suite à l'infini. Et Hegel crée ici une nouvelle forme de pensée, appelée la pensée dialectique. Hegel est le maître de la dialectique. La dialectique est non seulement justement ce moteur du monde, mais devrait être aussi la méthode par laquelle maintenant il faut penser. Il ne faut plus penser en termes de syllogisme, il ne faut plus penser en termes de raisonnement logique. Ça, A égale B, A plus 2, A plus B égale C, etc., égale X, tout ce qu'on voudra. Non, non, il faut penser en termes de thèse. Il y a une thèse. Et cette thèse rencontre une antithèse, son contraire. Cette thèse doit être contestée. Et par conséquent, il y a conflit entre la thèse et l'antithèse. Et finalement, le philosophe est celui qui assume ce conflit entre la thèse et l'antithèse, et qui, de ces deux contraires, essaye de faire une synthèse. Et naît donc un nouveau système, une nouvelle pensée, une nouvelle philosophie de cette synthèse entre la thèse et l'antithèse, jusqu'au moment où la nouvelle pensée, la nouvelle philosophie va à nouveau rencontrer une antithèse. Et le conflit va recommencer, et le processus aussi, à l'infini. Et c'est ainsi que nous allons marcher de progrès en progrès. Et il en va ainsi du christianisme, nous dit Hegel. Le christianisme n'est pas du tout le produit d'une révélation. Le christianisme est le produit d'une évolution historique entre différentes formes de polythéisme. Et finalement, il y a eu conflit entre ces différentes formes de polythéisme et de la synthèse entre ces réalités, eh bien, est né le monothéisme. Et à l'intérieur du monothéisme, le monothéisme juif, il y a eu conflit. Jésus a été celui qui a apporté la contradiction, l'antithèse. Et alors, de ce conflit que Jésus a payé de sa vie, est née une nouvelle synthèse qui est le christianisme, et ainsi de suite. Et maintenant, on arrive à une nouvelle situation où manifestement, le christianisme n'est rien d'autre que le produit de la pensée humaine, et notamment de la synthèse justement entre le judaïsme d'une part et l'hellénisme d'autre part. Il croit pouvoir discerner dans le Nouveau Testament les traces de ces courants contradictoires entre le courant judaïsant, par exemple, qui est représenté par l'évangile de Matthieu, et puis le courant hellénisant, qui est représenté par l'évangile de Jean. Et finalement, celui qui fait la synthèse, c'est Paul. Dans ses épîtres, il fait la synthèse entre la thèse et l'antithèse. Alors, cette trouvaille d'Hegel est exploitée aussitôt par des gens qui cherchent à se faire un nom, n'est-ce pas ? C'est toujours ainsi. Quand quelqu'un a une trouvaille un peu géniale, on essaie d'aller plus loin. Et c'est ainsi qu'un certain Strauss, ça se dit ? Oui, Strauss, 1808-1874, écrit « Une vie de Jésus », entre guillemets, où il prétend que l'évangile, les évangiles, les récits des évangiles qui parlent de Jésus ne sont finalement qu'un mythe, et qu'il faut décortiquer le mythe pour redécouvrir le Jésus historique. Et Strauss inaugure ici une école de pensée qui va avoir un grand avenir devant elle, puisqu'elle subsiste encore de nos jours, et qu'on appelle l'école historico-critique. Ça veut dire que les écrits bibliques, et notamment les évangiles, sont des écrits comme les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inspiration. Ce sont des produits humains. Et il faut étudier l'évangile comme on étudierait, je sais pas moi, les poèmes d'Ovide ou bien l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, quoi. Hein. Et notamment, voir ce qui est légendaire pour essayer de retrouver ce qui est historique. Bon, ce qui était légendaire, évidemment, c'est la divinité de Jésus, hein, ça c'est l'incarnation, ça c'est la légende. Ce qui est légendaire, c'est la résurrection. Mais par contre, bon, qu'il y a eu un individu qui s'appelait Jésus, qui est né à Nazareth, on remarque qu'on a fait mieux depuis, n'est-ce pas, qui est né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth. Aujourd'hui, on prétend même que Jésus n'a jamais vécu à Nazareth parce que Nazareth n'existait pas. Mais enfin, Strauss avait déjà lancé la piste, n'est-ce pas. Et bon, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est mort, il a été enseveli. Mais on ne dira pas, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ça, c'est la légende. Les miracles de Jésus, légende. Tout ce qui est surnaturel, légende. Parce qu'ici, on est dans une vision rationaliste. Tout ce qui n'est pas rationnel est faux, mythique, légendaire. Et de la thèse de Strauss va naître ce qu'on appelle l'école de Tübingen, une ville, l'école de théologie de cette ville, qui va entreprendre de mettre en pratique au niveau du Nouveau Testament les thèses de Strauss et de disséquer le Nouveau Testament pour retrouver le noyau historique et le Jésus historique. Alors, on fait la différence entre les écrits hellénistiques et les écrits judéo-chrétiens, etc., selon la théorie de Degel. On décrète que les évangiles sont tardifs, qu'ils ont été écrits de nombreuses décennies après les événements qu'ils rapportent, donc automatiquement, ils ne sont pas fiables historiquement. Et puis finalement, on aboutira à notre siècle, avec Bultmann, à l'idée que finalement, dans les évangiles, rien n'est historique et qu'on ne peut absolument pas connaître le Jésus historique par les évangiles. Thèse qui vient d'être prise par Corpus Christi, par exemple. C'est pas... Et alors, heureusement, il y aura un certain nombre de théologiens orthodoxes qui vont réagir, notamment un certain, alors là, je prends mon élan, Engestenberg, ça s'écrit H-E-N-G-E-S, T-E-M-B-E-R-G. Alors, voilà. Alors, c'est date 1802-1869, qui était professeur à l'Université de Berlin, et qui va stimuler alors un renouveau de foi évangélique au XIXe siècle en Allemagne. On aura aussi un certain Toluc, T-H-O-L-U-C-K, c'est date 1788-1877, qui lui était un théologien piétiste, alors au sens bon du terme, n'est-ce pas? Et puis, donc, un certain nombre de gens qui vont réagir contre cette dérive extrêmement redoutable de ce qu'on commencera à appeler la critique historique, justement, de la Bible, l'école historico-critique, n'est-ce pas, qui, hélas, continue à faire des ravages aujourd'hui dans notre société moderne, comme le récent film de Corpus Christi le montre. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?